Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de textes tirés des médias suivants. Liberté et l'actualité. Au programme, les continents de plastique. Et quelle est la meilleure activité physique pour les aînés? Bonne écoute.
Les continents de plastique, un texte de Elsa Beaulieu-Bastien, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Elsa Beaulieu-Bastien est anthropologue, militante écoféministe, enseignante et éducatrice populaire. L'incroyable histoire d'un des mensonges les plus destructeurs de tous les temps. C'est l'histoire d'un mensonge dont les conséquences dépassent l'entendement. Elle commence au début du XXe siècle avec l'invention des premières matières plastiques, la bakélite en 1907, suivie du polychlorure de vinyle, PVC, en 1912, du cellophane en 1913, du plexiglas en 1924, du polyéthylène en 1933, du polyuréthane en 1937, du nylon en 1938, du polystyrène en 1944, du polypropylène en 1954, etc. Ces noms qui valent une fortune au Scrabble vous sont familiers. Les plastiques sont nos compagnons de tous les instants. Toutes ces inventions ont commencé à donner lieu à une production de masse à partir des années 1950 seulement. Et elle n'a cessé de croître. Avec 8,5% de croissance annuelle moyenne, elle est passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à 367 millions en 2020. C'est le même genre de courbe exponentielle que celle de la consommation d'énergie fossile. Et c'est logique, puisque les plastiques sont produits principalement à partir du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Aujourd'hui, il ne se trouve pratiquement plus d'objets, de textiles ou de machines qui ne contiennent pas de plastique. Voici comment le mensonge s'installe. Dès les années 1970, alors même que la compagnie d'eau Vittel vient tout juste de créer la première bouteille en PVC, la pollution par le plastique préoccupe déjà le public. Que fait alors cette nouvelle industrie en plein essor? Se laisse-t-elle couper les ailes? Que nenni! Pour pouvoir continuer de produire en paix et à l'abri des regards critiques, elle fabrique une stratégie d'une efficacité impitoyable dont nous payons le prix depuis. Première étape, détourner l'attention des agissements et des décisions des producteurs industriels et la rediriger vers les gestes individuels des consommateurs. Voyez, ce n'est pas d'hier. L'industrie crée un organisme à but non lucratif, à saveur environnementale, Keep America Beautiful, qui fait principalement des campagnes publicitaires. La plus fréquemment citée est celle où l'on voit des gens jeter leurs déchets par la fenêtre d'une auto et qui arbore le slogan « Ce sont les gens qui créent la pollution, ce sont les gens qui peuvent l'arrêter ». Dans le filon génie diabolique, on a rarement fait mieux. Tout le reste se construit là-dessus, pour les 50 années suivantes, et pas seulement en ce qui concerne le plastique. Le calcul de notre empreinte carbone individuelle, un indice créé par la British Petroleum, BP, en 2004, procède de la même logique. La deuxième étape de la stratégie est plus perverse encore et a eu, elle aussi, une nombreuse descendance. Inventer une fausse solution pour apaiser les inquiétudes du peuple et canaliser sa bonne volonté. Et j'ai nommé le recyclage. Une enquête menée en 2020 par NPR et PBS a révélé que l'industrie savait parfaitement, dès le début des années 1970, que le recyclage du plastique ne serait jamais économiquement viable ni techniquement satisfaisant, qu'il n'endiguerait nullement l'accumulation des déchets et surtout, qu'il ne diminuerait en rien la production de plastique neuf, qui resterait toujours moins chère et bien plus lucrative. Les principales campagnes publicitaires pro-recyclage des deux décennies suivantes ont d'ailleurs été financées par l'industrie Exxon, Chevron, Dow, DuPont, BP et consorts. 90% du plastique produit n'est pas recyclé. Il s'empile dans les dépotoirs, s'envole au vent et voyage dans les eaux des rivières et des fleuves. Les gens et les municipalités ont investi énormément d'efforts et d'argent dans l'organisation de la collecte des matières recyclables domestiques, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Qui plus est, le recyclage est devenu le symbole par excellence de ce que veut dire « faire sa part pour l'environnement ». On recycle, on se sent bien. Notre job est fait. L'ennui, c'est qu'au-delà de la collecte, on n'a jamais réellement développé l'industrie du recyclage lui-même. Et pour cause, puisqu'on savait depuis le début que ce ne serait pas viable, impossible de collecter et de trier adéquatement. Processus polluant, énergivore et coûteux, ne pouvant donner lieu qu'à des produits de moindre qualité. De toute façon, pour l'industrie, c'est inutile, puisque c'est la partie que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, et surtout depuis que la Chine a cessé l'importation de nos déchets plastiques en 2018, la réalité est mieux connue d'un public averti, mais on continue de ne pas voir, ou alors de faire comme si. Moins de 10% du plastique produit est recyclé. Vous écoutez « Les continents de plastique », un texte de Elsa Beaulieu-Bastien, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Voilà pour le mensonge. Maintenant, faisons un tour d'horizon de ces vastes conséquences écologiques. Depuis les années 1950, les déchets plastiques s'accumulent. En 2022, il y en a partout. 90% du plastique produit n'est pas recyclé. Il jonche les endroits où nous le laissons traîner, s'empile dans les dépotoirs où il contribue aux lixiviats toxiques qui contaminent les sols et les nappes phréatiques, s'envole au vent et voyage dans les eaux des rivières et des fleuves. Le 10e aboutit dans les mers. Qui n'a pas entendu parler de l'abominable continent de plastique composé de ces déchets divers et surtout d'engins de pêche abandonnés qui flottent au milieu du Pacifique Nord? C'est le plus connu et le plus gros. Il couvre une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés, soit un peu plus que celle de l'Inde. Mais il y en a quatre autres. Dans le Pacifique Sud, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et l'océan Indien. Les animaux marins, grands et petits, qui se retrouvent coincés dans ces zones meurent dans des souffrances atroces. Les cinq plus gros contributeurs, selon l'organisation non gouvernementale The Ocean Cleanup, sont le Japon, 33,6%, la Chine, 32,3%, la Corée, 9,9%, les États-Unis, 6,5%, Taïwan, 5,6% et le Canada, 4,7%. Mais tout cela, c'est déjà connu. Ce qu'on découvre chaque jour un peu mieux ces temps-ci, c'est jusqu'à quel point les plastiques sont des poisons. D'une part, ils suent. Les substances toxiques qu'on a mises dedans pour leur donner différentes caractéristiques, c'est quand même extraordinaire qu'on y emballe nos boissons et notre nourriture. D'autre part, ils ne se décomposent pas vraiment, mais ils se dégradent et se désagrègent en morceaux de plus en plus petits. De macroplastique à microplastique, puis nanoplastique. Sous leur forme ultra-légère, les micro- et nanoplastiques se dispersent et voyagent partout. 70 ans après le début de l'explosion de la production, il y en a maintenant dans la terre, dans l'eau et dans l'air. Il y en a dans notre sang, dans nos organes, dans les animaux et dans les plantes qu'on mange. Oui, les nanoplastiques se retrouvent dans les corps des plantes. On en mange, on en boit, on en respire. Il en tombe avec l'eau de pluie partout sur la Terre, y compris, évidemment, dans les parcs de conservation et les aires protégées. Rien ni personne n'y échappe. Et, bien entendu, ces micro- et nanoplastiques sont toxiques pour les animaux dont nous sommes. Ils perturbent l'activité endocrinienne et le système nerveux, causent des cancers, etc. On commence à peine à gratter la surface de cet abîme de toxicité encore largement inconnu. Il vaut la peine de s'attarder un instant à l'effet des microplastiques dans les océans. Comment résumer une catastrophe d'une telle complexité et d'une telle ampleur? Tout d'abord, les océans gouvernent la vie sur Terre. Le poumon de la planète qui nous fournit notre oxygène de 50 % à 75 % et qui capte le carbone, 30 % n'est pas la forêt amazonienne. Ce sont les océans, principalement à travers le phytoplancton et le zooplancton. Or, les microplastiques ont ceci de particulier qu'en plus de dégager les toxiques qui les composent, ils agissent comme de petites éponges auxquelles collent les autres contaminants dissous dans l'eau, de petites bouchées de poison hyper concentrées dont se nourrit le plancton et qui l'empoisonne, et par le fait même tous les autres animaux de la chaîne. Alors, non seulement les oiseaux et les animaux marins plus gros ingèrent-ils directement des méso-morceaux de plastique qui les empoisonnent et leur bloquent l'estomac, mais même lorsqu'ils mangent de la vraie nourriture, celle-ci est un concentré de plus en plus puissant de contamination. Bien entendu, la pollution plastique et chimique n'est pas la seule menace à la vie océanique. Il y a aussi la surpêche, le réchauffement et l'acidification, et bien d'autres menaces encore, comme la ruée vers l'extraction de minéraux rares du fond des océans. N'empêche, la contamination plastique est une menace immédiate et gigantesque à la vie marine et, sans la vie marine, sans effet du climat et sans effet de nous. Bien sûr, il faut faire quelque chose. En mars dernier, il s'est négocié sous l'égide des Nations Unies l'idée d'élaborer un traité mondial sur la pollution par le plastique. Maintenant, on travaille à s'entendre sur le type de traité, la manière d'en décider, etc. Exactement comme pour les négociations sur le climat, les gros producteurs de plastique, les pays, mais aussi l'industrie elle-même, qui est invitée à la table, s'arrangent pour ralentir, voire bloquer le processus. La tragédie, c'est que cette pollution mortelle est chose faite. Le plastique déjà dispersé est irrécupérable. À ce stade-ci, la seule chose intelligente à faire, c'est d'arrêter la production de plastique, de nous en passer. Avant le plastique et avant les énergies fossiles, nous vivions différemment. Mais nous vivions. Alors, si nous voulons continuer, il va falloir le faire sans objet de plastique. Nous vivrons quand même avec le plastique et sa toxicité, puisqu'il y en a déjà dans l'air, le sol et l'eau. Mais, au moins, la quantité cessera d'augmenter. Nous aurons une chance. Bien entendu, se passer du plastique, le matériau le plus malléable de tous les temps, auquel on peut donner n'importe quelle forme et n'importe quel niveau d'élasticité ou de dureté, n'est pas une mince affaire. La question de ses usages dans le domaine médical, par exemple, est particulièrement épineuse. Par ailleurs, les problèmes liés à l'extraction minière font en sorte que nous ne pourrons pas nécessairement remplacer le plastique par du métal. Il va nous falloir trouver ensemble des réponses collectives à de nombreux dilemmes. Mais, en ce moment, le mensonge perdure et la production débridée se poursuit. Celle-ci va d'ailleurs continuer de croître, puisque c'est une des réponses stratégiques des pétrolières à la réduction anticipée de la demande en combustible fossile. Les gens veulent faire leur part pour le climat. Qu'à cela ne tienne, pour maintenir leurs profits, les pétrolières prévoient d'augmenter la production de plastique. Les nouvelles usines ou extensions d'usines pétrochimiques à cette fin sont en construction. Vous l'aurez compris, On ne peut pas laisser faire ça. Ne nous laissons plus berner. Résistons. C'était « Les continents de plastique », un texte de Elsa Beaulieu-Bastien paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Quelle est la meilleure activité physique pour les aînés? Un texte de Kwok-Dean Nguyen paru le 28 mars 2023 dans l'actualité. L'auteur est gériatre, épidémiologiste et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il est aussi l'un des cofondateurs et l'expert médical de l'entreprise Eugéria, qui s'est donné pour mission d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Demeurer actif physiquement est la meilleure façon de conserver son autonomie. C'est même un incontournable pour pouvoir couler ses vieux jours à la maison. J'ai rarement besoin de convaincre les personnes âgées et leurs proches de l'importance de la mémoire et plus largement des fonctions cognitives. Mais j'ai plus de difficultés à leur faire avaler la pilule de l'exercice physique. Pour une consultation en raison de troubles de mobilité et de chute, j'en fais de 5 à 10 pour des troubles cognitifs. Pourtant, les deux types d'atteintes contribuent aux pertes d'autonomie qui forcent un aîné à quitter sa maison. Un déclin cognitif est une chose, un déclin physique en est une autre, mais lorsque les deux se combinent, l'effet est décuplé. Soucions-nous autant de nos pieds que de notre tête. Les bienfaits de l'activité physique. Les bénéfices d'une pratique régulière d'activité physique débordent largement le système musculaire. Le cœur, les poumons et les os sont des organes dont la fonction se renforce à l'usage. L'exercice physique est une des meilleures manières d'éviter ou de retarder les maladies cardiovasculaires ou les fractures dues à l'ostéoporose et aux chutes. De façon peut-être étonnante, il a aussi été démontré que l'exercice physique a des effets positifs sur les fonctions cognitives. D'abord à long terme, en réduisant le risque d'être atteint de troubles cognitifs tels que la démence, mais également à court terme par l'amélioration directe des fonctions du cerveau lui-même, particulièrement en ce qui a trait à la planification et à l'organisation. L'activité physique a un effet positif sur l'humeur, et lorsqu'il s'agit d'une activité physique collective, cet effet augmente. Combien de temps faut-il y consacrer? L'Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes de plus de 65 ans de pratiquer chaque semaine la même quantité d'activité physique que les adultes plus jeunes, soit au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée, comme marcher d'un bon pas ou danser, ou 75 minutes d'activité d'intensité soutenue, comme monter une côte à pied ou faire du vélo à vive allure. Cela peut aussi être une combinaison des deux, par exemple 90 minutes de marche et 30 minutes de course. De plus, surtout pour les aînés aux prises avec des troubles de mobilité et sujets aux chutes, on préconise d'ajouter au programme 2 ou 3 fois par semaine des activités qui mettent l'accent sur l'équilibre fonctionnel, tels que le tai chi. Simple, non? Disons que ces recommandations sont plus faciles à lire qu'à mettre en branle. Les 4 types d'activités physiques. Mieux on comprend les choses, plus on y trouve un sens et plus on est motivé à les faire. Il faut donc savoir que toutes les activités physiques ne sont pas équivalentes. Pour en tirer le bénéfice maximal, il est judicieux de répartir son énergie entre plusieurs formes d'exercice, et non pas toute la concentrer sur de longues marches de plusieurs heures. On peut les classer en quatre types: l'endurance, la résistance ou force musculaire, l'équilibre et la flexibilité. Les activités d'endurance, aussi appelées aérobiques, font augmenter les fréquences cardiaques et respiratoires. La marche, la danse, la natation et le vélo en sont de bons exemples. Viennent ensuite les exercices de type résistance musculaire, qui font travailler les muscles eux-mêmes et les sollicitent à un niveau supérieur à ce qu'ils font en temps normal. Poids et haltères, appareils de musculation, transport d'objets lourds, comme l'épicerie, bandes élastiques et exercices qui emploient le corps comme résistance, comme des pompes ou push-up en anglais, debout au mur. L'équilibre et la flexibilité sont deux composantes souvent oubliées de la forme et de l'activité physique. Elles appellent des exercices qui visent à augmenter la stabilité et le contrôle du corps, ainsi que l'amplitude des mouvements. Faire du tai chi ou du yoga, se tenir sur un pied, effectuer des exercices d'étirement, marcher en tandem, comme sur une corde raide imaginaire, en regardant devant soi. On réduit souvent l'activité physique aux exercices d'endurance. Les quatre types d'exercices sont pourtant complémentaires et participent au maintien de la forme physique, donc de la capacité à vaquer à toutes nos activités quotidiennes malgré le vieillissement. Vous écoutez « Quelle est la meilleure activité physique pour les aînés ?» Un texte de Kwok Jin Nguyen paru le 28 mars 2023 dans l'actualité. Renforcer ses réserves. Dans la fleur physique de l'âge, quand le corps a le potentiel de courir un marathon, l'inactivité physique n'a que très rarement un effet sur la vie quotidienne. Il y a une réserve physiologique, un coussin de sécurité. Mais pour de nombreuses personnes de plus de 70 ans, cette même inactivité physique empêchera le corps de maintenir une réserve physiologique suffisante pour les activités quotidiennes essentielles. C'est encore pire lorsqu'il leur faut traverser un stresseur important comme une chute, une maladie grave ou une hospitalisation. Plus on est près du seuil d'inactivité engendrant des conséquences néfastes, plus il est payant de s'en éloigner. C'est la meilleure façon de préserver sa capacité à se déplacer ou à faire ses courses, afin de conserver son autonomie. Des obstacles à la pratique de l'activité physique. Pourquoi ne pratique-t-on pas plus d'activité physique, particulièrement en vieillissant? Je perçois chez mes patients une certaine inertie devant le changement, et cette réaction n'est pas l'apanage des personnes âgées. Adopter de nouveaux comportements exige d'instaurer des routines qui ne viennent pas naturellement. Notons ensuite que les bénéfices importants de l'activité physique n'ont été démontrés dans la littérature scientifique qu'à partir des années 1960-1970, alors que notre mode de vie se sédentarisait de plus en plus. Le lien entre exercice physique et santé est moins évident pour les gens très âgés que pour les générations qui ont suivi. Après tout, la populaire entraîneuse José Lavigueur n'a que 57 ans. L'inactivité chez les aînés s'explique aussi par la douleur et la crainte de blessures et de chutes. Un cercle vicieux peut s'installer. La douleur entraîne l'inactivité qui, elle-même, augmente la douleur. Il en va de même pour la peur de tomber, car l'inactivité mène au déconditionnement qui augmente le risque de chute et encourage l'inactivité. On sait pourtant que se remettre à bouger peut entretenir un cercle vertueux et atténuer la douleur et la peur de tomber. Finalement, des aînés se demandent si certaines des affections dont ils souffrent peuvent rendre dangereuse la pratique d'activité physique. Sachez qu'il existe très peu de contre-indications absolues à certaines formes d'activité physique. la clé est de personnaliser l'exercice selon nos limitations et surtout nos besoins, nos capacités et nos envies. Des outils pour faire le choix de l'activité physique. J'observe une grande diversité dans la forme physique des personnes âgées. Impossible, donc, de proposer à toutes les mêmes activités. Le plus important est de commencer et, progressivement, de se pousser un peu selon ses capacités. Les anglophones et les pharmaciens en gériatrie ont une jolie formule pour cela. Start low, go slow, but go. Il est essentiel de choisir des activités qui nous sont agréables, car ce sera la meilleure façon d'en assurer la poursuite. Optez également pour des types d'activités variées et combinées, endurance, résistance, équilibre et souplesse. Vous pouvez consulter un professionnel de la santé, en particulier un kinésiologue ou un physiothérapeute, pour trouver un programme qui vous convient. Il y a aussi d'excellentes ressources québécoises en ligne. La première, SAFE, soutien aux aînés pour la forme et l'équilibre, a été mise sur pied par des gériatres du Centre universitaire de santé McGill. La deuxième, le GO, pour bouger, a été créée par des kinésiologues de CERCOVIE, la Direction régionale de santé publique de Montréal et le service de gériatrie du CHUM. L'une et l'autre proposent des programmes d'exercice adaptés et propres à différents niveaux de conditions physiques. Faites le choix de l'activité physique et passez de la théorie à la pratique. C'était « Quelle est la meilleure activité physique pour les aînés ?» un texte de Kwok Jin Nguyen paru le 28 mars 2023 dans l'actualité.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.